Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Il fait beau dans le Beaujolais, du soleil toute la journée et des températures autour de 16 degrés environ cet après-midi. Au programme de notre émission, on va parler sport en milieu d'heure avec Eddy Bernard. On terminera en musique avec Mai, la 11e, la rubrique jazz de Georges Boton. Mais avant ça, on va retrouver nos invité du jour. On va parler d'un musée en pleine nature qui fera son grand vernissage ce samedi. Musée en vigne, mais on peut aussi dire musée en vie. Un hommage à l'art de la vigne et du Beaujolais au Val-d'Ouin. Deux frères agriculteurs, Quentin et Gaëtan Morel, vous accueillent au milieu de leur vigne à côté du Bois d'Ouin pour découvrir ou peut-être plutôt redécouvrir le terroir du Beaujolais, ses paysages, sa nature avec de vraies œuvres d'art vivantes. C'est porté par l'association Agir au Val-d'Ouin. On va parler de ce musée en vie dans quelques instants. Pour nous expliquer en détail de quoi il s'agit, nous recevons donc Quentin Morel et Jean-Philippe Ferrière. Avant ça, on commence l'émission en musique. Je vous propose d'écouter un extrait du dernier album de Trio, ça s'appelle Ta Planète. Nous sommes ensemble sur Canada, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte.
Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Et toi, qu'est-ce que tu vois?
C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier.
Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Dans ton corps,
et toi,
ta planète,
qu'est-ce que tu vois?
Ton trésor,
et toi,
tu m'appris,
qu'est-ce que tu vois?
Tu la brûles,
et toi,
tu l'allumes,
qu'est-ce que tu vois?
Dans ton cœur.
Plus de 20 ans qu'ils font de la musique Trio, ils n'ont pas changé, c'était le titre Ta Planète.
Ensemble sur Calade.
Allez, on retrouve nos invités du jour avec moi aujourd'hui en studio, Quentin Morel et Jean-Philippe Ferrière. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Quentin, vous êtes viticulteur?
Oui, tout à fait.
Et Jean-Philippe Ferrière, vous représentez l'association Agir au Val-d'Ouin aujourd'hui, c'est ça?
Tout à fait.
Et on va parler du musée en vigne qui va ouvrir ses portes ce samedi. Eh bien, commençons par là. Le musée en vigne, en quelques mots, avant de l'expliquer en détail ce dont il va s'agir, qu'est-ce que c'est?
Alors, qui commence.
Allez, je te laisse l'honneur.
Alors, merci de nous accueillir tout d'abord. Alors, Musée en Vigne est un projet effectivement porté par l'association Agir au Val-d'Ouin, qui fait suite à un autre projet qui s'appelle Beaujolais en Vigne et qui a consisté à établir un parcours de randonnée avec des points accessibles par QR code. Et donc les deux, Beaujolais en Vigne et Musée en Vigne ou Vie, ont été proposés à l'ensemble des vignerons de Val-d'Ouin. 5 ont répondu pour accompagner Beaujolais en Vigne et plus particulièrement 2 pour Musée en Vigne, donc enfin 2 domaines, le domaine des Prévolières, donc Gaëtan et Quentin Morel, et le domaine de la Mantelière, Anne-Claire et Christophe Brément, chez qui une seconde version de Musée en Vigne aura lieu au printemps 2022.
D'accord, tout bientôt. À la base, l'idée c'est quoi ? Parce qu'il va s'agir d'un musée totalement naturel dans votre terrain, en fait, Quentin Morel.
Oui, tout à fait. L'idée première, alors je pense que Jean-Philippe en parlerait mieux que moi, puisque c'était son idée d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'installer des cadres au sein de nos parcelles, au sein d'une parcelle de Chardonnay juste sous le domaine, et de pouvoir par le biais de ces cadres, montrer aux gens qui seront présents réellement notre façon de travailler, notre façon de cultiver la vigne, l'environnement qui entoure cette parcelle, et puis de pouvoir en fait simplement sensibiliser un petit peu les gens à l'art de la vigne, au Beaujolais et à un savoir-faire qui est ancestral dans notre région.
Et donc il va y avoir comme des cadres de tableaux, mais il n'y aura pas le tableau à l'intérieur, la peinture ou la photo. Oui. Là, ce sera le paysage qui est derrière qu'il faudra.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a un côté un petit peu décalé et un peu humoristique. On s'amuse un peu, on va dire, avec les conventions d'une exposition d'art, habituellement dans une galerie, suivie d'un vernissage. Là, en l'occurrence, l'exposition se fait dans un vignoble. À l'intérieur des cadres de tableaux, effectivement, comme l'a dit Quentin, en fait, on voit des vues qui ont été choisis par les vignerons artisans et artistes. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tableau, mais des vues à travers lesquelles ils veulent nous raconter leur art de la vigne et leur philosophie. Et il y aura également un vernissage. Alors, dans une exposition d'art contemporain, vous avez la grande table avec nappe blanche, bouquet de fleurs, personnel de service très bien habillé. Ouais. Il y aura cela dans la vigne. Alors, voilà, je vous laisserai découvrir. Voilà, donc on reprend les codes de l'exposition d'art, mais effectivement au milieu de la vigne, et les artistes qui accueillent le public pour commenter leurs œuvres, eh bien ce sont les artisans vignerons.
Et ce vernissage, c'est, je rappelle la date, c'est ce samedi 16 octobre à 17h. Oui. Quentin, vous êtes artiste maintenant.
C'est bien de le dire comme ça. Pourquoi pas, ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, on se donne à fond dans notre métier. L'idée pour nous, première, c'est vraiment de cultiver notre vigne, de cultiver nos parcelles et puis d'en faire des raisins qui sont le plus qualitatifs possible pour en faire des vins les plus qualitatifs possibles. Effectivement, je ne sais pas si on peut en parler réellement comme de l'art, mais en tout cas on se donne les moyens. Ouais.
Non, mais dans la sélection des tableaux, en tout cas, vous avez dû vous prêter au jeu de choisir vous alliez montrer finalement.
Totalement. Mais ça, c'était une grande réflexion où finalement, Jean-Philippe, Cécile, toutes les personnes d'Agir sont venues nous ont proposé cette idée. Il y a eu quand même un moment où il fallait que nous soyons capables de montrer au public réellement notre façon de travailler par le biais de ces cadres. Donc on a travaillé un peu là-dessus, on a identifié des points clés qui nous tenaient à cœur, qui soient identifiés, et du coup on en a fait des petites phrases. Et voilà, et ces petites phrases, il a fallu les caler au milieu d'un environnement pour qu'elles puissent être comprises par le public. Voilà.
Vous, Jean-Philippe, en amont avec l'association, vous avez dû contacter, ce que vous nous avez dit, des vignerons, des agriculteurs. Comment est-ce que vous leur avez proposé ce plan qui paraît un petit peu fou quand même ? Comment est-ce que vous avez annoncé le projet, expliqué ?
Alors, on va dire très généralement par le fait que Voilà, nous avons le souci, tout d'abord, de valoriser les vins, enfin les Beaujolais de Valdoin. Enfin, moi particulièrement, voilà, j'aime beaucoup les Beaujolais. J'ai toujours été très soucieux de les promouvoir, voire de les défendre, parce qu'il faut bien admettre que parfois on entend dire à propos du Beaujolais des choses qui ne sont pas toujours agréables, ce qui m'a toujours fortement agacé. Et je voulais plus particulièrement, voilà, promouvoir les Beaujolais de Valdoin. Et donc c'est sous cet angle-là que ça a été présenté aux vignerons. Alors il y a aussi, on va dire, donc ça c'est un peu un volet un peu économie locale, mais aussi un volet solidarité et cohésion sociale, qui sont deux axes forts dans la société. Agir. Et puis il y a un côté environnemental aussi, et c'est là que la démarche des frères Morel nous intéressait. Alors Quentin en a parlé dans son propos, voilà, il y a une certaine philosophie, il y a un certain art de vivre, une certaine manière d'entrer en dialogue avec la nature, qui nous plaisait beaucoup. Alors j'ajouterais que dans le lieu qu'ils ont choisi, en quelque sorte, effectivement, il y a un récit. Il y a un récit, c'est-à-dire qu'ils auraient pu choisir des vues plus spectaculaires, des paysages plus spectaculaires, mais ici, dans ce domaine, ça raconte l'histoire familiale, ça raconte la relation avec l'écosystème autour, ça raconte la manière dont ils travaillent le sol, ça raconte la manière aussi dont ils travaillent le feuillage. Donc en fait, il y a en condensé, dans cet endroit où aura lieu l'exposition, on va dire l'ensemble des éléments du récit, en quelque sorte.
C'est un lieu qui permet une exposition complète où on voit la totalité du travail.
Tout à fait. En fait, on s'était réunis pour essayer de trouver un lieu, une parcelle qui pouvait convenir réellement à cette réception, à cette exposition. On avait des lieux magiques. Nous, on a des vignes qui touchent la chapelle de Saint-Laurent sur le coteau de Montjoly, où c'est connu de toutes les personnes en local.
Quand on fait la balade, c'est le point où il faut passer.
Tout à fait. On a des parcelles avec des vues magnifiques. Et puis finalement, on a choisi la parcelle effectivement juste sous le domaine, qui est un mi-coteau sur un fond de vallée, et qui finalement c'est une parcelle avec 2 hectares de chardonnay. Qui donne en dessous sur des prés, avec des animaux, avec des bois, avec un ruisseau qui traverse. C'est vraiment l'ensemble de la biodiversité locale, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir montrer aux gens, et pas simplement une ville, une vigne et une vue. Voilà.
Ouais. Je crois que vous, en plus, vous travaillez ce qu'on appelle en biodynamie.
Oui.
C'est une particularité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, comment ça marche ?
Oui, tout à fait. Alors réellement, parce qu'on peut y mettre, différentes définitions. Notre définition réelle à nous, puisque la biodynamie, en fait, c'est l'agriculture biologique avec un cahier des charges supplémentaire. Notre définition réelle à nous, c'est vraiment de l'agriculture biologique, donc sans herbicides, sans pesticides, à laquelle on va rajouter une grosse notion environnementale. On va vraiment chercher à créer un système, un écosystème autour de nos parcelles pour favoriser la biodiversité, pour favoriser... on va chercher à avoir une plante qui naturellement soit... Donc une vigne qui naturellement soit en pleine santé, pas par des apports d'engrais, mais simplement par exemple, on va parler de fumier bovin locaux, on va parler... L'idée, c'est vraiment de soigner la plante le plus naturellement possible et arriver à créer un écosystème autour de nos parcelles. Pardon.
Est-ce que le fait qu'il y ait des... vous avez évoqué des prés, des bois à côté, le fait qu'il n'y ait pas que des vignes de partout dans la montagne, c'est... Ça fait partie de cette biodynamie.
Bien sûr que ça en fait partie. Et quand on parle biodynamie, on parle système, et on parle pas uniquement de vignes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de parler de biodynamie en parlant en étant en plein milieu d'un vignoble où il n'y a même plus un arbre, où on ne parle plus que de mer, de cèpes de vignes et de parcelles. La nature qui est environnante à nos parcelles joue un rôle qui est primordial dans cette biodiversité et dans justement le fait de diminuer les doses de... de produits phytosanitaires, de tout ça. Après, ça fait peur, c'est des mots qui font peur. Justement, l'idée, c'est vraiment de créer ce système pour aller le plus loin possible et ne plus utiliser quasiment rien du tout.
Et laisser la nature faire.
Voilà, tout à fait.
Et est-ce que c'est nouveau, novateur, cette façon de penser, ou est-ce que c'est un retour à des choses plus traditionnelles? Est-ce qu'on revient, on saute une ou deux générations en avant et on pensait déjà comme ça avant?
Je pense que c'est un petit retour en arrière, sans être réellement un retour en arrière, parce qu'il y a vraiment... en fait, aujourd'hui, il y a les connaissances qui n'étaient pas forcément acquises à l'époque. On travaillait... par exemple, on travaillait les sols sans herbicides parce que les herbicides n'existaient pas.
Ça n'existait pas.
Aujourd'hui, nous, on revient sur du travail du sol, effectivement, pour tenir un sol à peu près propre sous nos ceps de vigne, mais pas forcément comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on parle uniquement de binage peu profond pour ne pas aller dénaturer notre sous-sol. On sait que quand on parle d'environnement et de biodiversité, on parle de la biodiversité qui, certes, est en surface et dans l'herbe, dans la faune, etc. Mais on peut aussi parler de biodiversité qui est en sous-sol. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de bactéries, de vers de terre, qui sont dans nos sols, et il faut les perturber aussi le moins possible. Notre vigne, c'est pas qu'un cep qui sort du sol. C'est réellement un système racinaire, et il faut entretenir notre système racinaire pour avoir une vigne qui soit en parfaite santé. Voilà.
Ce que vous nous racontez là, on le retrouvera dans le musée, on pourra le comprendre, le voir aussi de nos propres yeux, cet écosystème.
On espère, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire en sorte de pouvoir expliquer tout ça aux gens le plus lisiblement possible. Alors nous, on sera là aussi à nous promener au milieu de la vigne avec tout le monde pour justement apporter les éléments de réponse aux gens si vraiment tout n'est pas forcément clair. C'est très difficile de tout expliquer, de tout expliquer. Déjà par des mots. Mais en plus par des cadres. Alors finalement, les cadres sont peut-être plus visuels et du coup plus explicites pour certaines personnes que des mots. Ouais.
L'objectif de ce musée, à la base, c'était quoi? Vous avez parlé de soutenir une économie locale, mais j'imagine que c'est des gens du Beaujolais, avant tout, qui vont venir voir ça et... c'est redécouvrir notre terroir, notre Beaujolais.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait, bon, je l'ai dit, un objectif de cohésion sociale, c'est renforcer le lien entre les vignerons et la population de Valdoin. Il y avait un objectif de promotion des Beaujolais de Valdoin par le prisme du Beaujolais du domaine des Prévolières. Et bon, voilà, un objectif effectivement d'image et d'économie, ce qui est de favoriser la promotion, la diffusion des Beaujolais auprès du grand public au-delà de Valdoin, auprès du public de la restauration, auprès du public institutionnel aussi. Voilà, il nous semble que c'est important. Alors, il y a un grand mouvement qui est engagé. On sent que l'image des Beaujolais est en train de se restaurer en dignité, dirais-je. Il y a, donc voilà, ce mouvement, on le sent bien. Et je trouve que c'est important, effectivement, de faire des actions comme ça qui assurent la promotion et la diffusion du Beaujolais. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Quentin. Effectivement, c'est pas vraiment un retour en arrière, ce qu'ils font. Il y a des techniques empruntées au passé, mais il y a aussi des connaissances solides, ils peuvent se prévaloir de connaissances scientifiques, donc il y a beaucoup de rationalité, et il y a aussi beaucoup de sensibilité. C'est aussi un point auquel on était très, très sensible dans l'association. Alors, comme dit une philosophe qui s'appelle Catherine Larère et son mari, ingénieur à Grenoble, Raphaël Larère, c'est vraiment c'est ce qu'ils appellent l'éthique du faire avec. L'éthique du faire avec, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en arrivant, on va dire, dans une relation brutale à la nature, mais dans une sorte d'accompagnement et de dialogue. Et ça me rappelle ce qu'avait écrit ton père, Quentin, dans le cuvage, il y a quelques mots à la craie que j'ai trouvé très beau. Donc il a un peu initié ce mouvement-là. J'aimerais bien que tu les rappelles.
Tout à fait. Alors effectivement, nous sur le domaine, donc on est un domaine familial qui sur lequel mon père a exploité pendant très très longtemps, puisqu'on a repris là avec mon frère. Et il y a 10 à 15 ans peut-être, mon père a écrit à la craie au cuvage une phrase qui existe toujours, qu'on repasse régulièrement. il a écrit « Prendre le temps, croire en la nature ». Je pense qu'aujourd'hui, la philosophie qu'on a, nous, c'est vraiment une philosophie qu'il avait lui et qui nous a inculquée. C'est vraiment sa façon de penser. Et nous, on essaye de pousser toujours un petit peu plus loin ce que lui nous a appris. Et c'est vraiment un héritage, clairement.
Je me suis posé la question un petit peu en préparant cette émission. Je pense qu'il y a une envie de faire bien de votre part. Si tous les bois, les prés, etc., si vous rasiez tout, vous rajoutiez des vignes, vous produiriez plus. Enfin, s'il y avait vraiment une philosophie mercantile uniquement de production, 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 comme on en connaît beaucoup à notre époque.
Oui, non, on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, alors, des vignes, on en a assez. L'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème autour et pas du tout d'aller rajouter de la vigne pour rajouter de la vigne. La vigne, on la met sur les coteaux les plus qualitatifs possibles. Quand on parle, et on le verra très bien lors de l'exposition, la vigne est à mi-coteau, les prés sont en dessous, il y a un petit ruisseau qui traverse en bas, on va pas aller planter nos parcelles à râler ouais. Les petits ruisseaux, même si ça va apporter de l'eau, ça va faire des raisins plus gros qui seront plus qui produiront certainement plus. L'idée, c'est vraiment un retour qualitatif et ça, je tiens à le préciser, c'est vraiment un retour qualitatif et on parle du Beaujolais qualitatif. Voilà. Et le Beaujolais, effectivement, comme Jean-Philippe a pu le dire tout à l'heure, a été décrié pendant quelques années. Aujourd'hui, je pense que dans tout le monde essaye réellement, tous les vignerons qui restent et qui se battent aujourd'hui, essayent vraiment de faire des vins qualitatifs. Voilà.
Et ça fait du bien entendre. le rendez-vous donc pour le vernissage, c'est ce samedi à 17h. Le domaine, il est à côté du Bois d'Oin, à 20 minutes à pied.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'il y a ce vernissage? Est-ce qu'on peut venir visiter le musée ensuite dans la durée? Ça va rester combien de temps? Comment ça se passe?
Alors, ce qu'on a mis en place, du coup, tous les cadres, toutes les petites phrases explicatives sur les cadres, tout est en bois et tout est déjà positionné, déjà à peu près finalisé. Tout va rester le plus longtemps possible. Alors certains cadres risquent de bouger de quelques mètres pour qu'on puisse passer entre les rangs, travailler plus facilement, mais en tout cas tout restera en place le plus longtemps possible tant que les cadres tiendront par rapport à la durée de vie de nos cadres en bois.
Oui, le plus longtemps possible, c'est-à-dire tant que, on va dire, la nature et ses processus auront décidé que cette exposition peut continuer à demeurer permanente, c'est un peu voilà l'idée. Voilà, on parlait tout à l'heure du faire avec. Ben voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, le jour où la météo, on aura décidé autrement, le temps.
D'autant que ça vaut peut-être le coup d'aller le voir une ou deux fois ce musée, parce que là, pour l'instant, c'est encore un petit peu vert dans le Beaujolais, mais on m'a dit que dans quelques jours, ça allait devenir doré, les vignes, etc., que ça allait prendre une autre couleur. Faut venir le voir régulièrement.
ça commence là. Finalement, le vernissage va tomber juste à pic, puisque on va commencer à arriver sur des couleurs un peu jaunes, un peu rouges. Ouais. Voilà, les feuilles. L'automne, en tout cas, fait son travail et les feuilles commencent à changer de couleur. Tout à fait.
Super. Bon, ça...
on espère une belle journée ensoleillée pour que ça ravive toutes ces couleurs.
Très bien, c'est ce qu'on souhaite, effectivement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce musée en vie, en vigne, l'un ou l'autre.
Merci de nous avoir reçus.
Oui, tout à fait.
On va se quitter en musique, on va écouter Marvin Gaye avec I Heard It Through the Grapevine. Je l'ai entendu dans la grappe de raisin, tout simplement. Show hands to make me blue with some other guy. Valley, c'était un petit extrait de Marvin Gaye, Early Trucks the Grapevine.
Ensemble sur Calade.
Instant sport.
Allez, il est l'heure de parler sport et pour cela, on retrouve bien sûr Eddy Bernard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, est-ce que tout va aussi bien que le ciel?
Bah, tout va bien, toi aussi, ça va?
Très bien.
Bon, alors comment se sont débrouillées nos équipes locales et régionales ce week-end?
Il y a eu plein de choses, il y a eu du bon, il y a eu même de l'excellent, et puis il y a eu du moins bon, du beaucoup moins bon, il y a eu tout.
Très bien, on va faire le point, alors on commence par le foot.
Voilà, par le football en effet, parce que c'est traditionnellement le football club Villefranche-Beaujolais qui ouvre le week-end, hein, puisque le championnat national 1 se dispute essentiellement le vendredi soir. Les Tigres étaient à Saint-Brieuc en Bretagne vendredi 8 et ramènent encore un bon résultat, c'est un match nul. On est un peu sur notre faim parce que l'équipe d'Hervé de la Magior, on le rappelle, essaie de conserver le sommet du classement, si ce n'est la première, au moins l'une des trois premières places. Et ce déplacement, il aurait été bien peut-être de l'emporter là-bas. Ils auraient pu s'imposer logiquement, les Tigres, parce qu'ils ont quand même dominé la rencontre. Mais la finition a manqué, c'est souvent comme ça en football. Où, hélas, devant le but, on manque un peu de réussite. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Bon, 0-0, match sans but, donc. Ouais. Mais les Tigres gardent la troisième place du classement après cette dixième journée. Ils sont à 4 points d'Annecy, le leader. Mais le championnat sera encore long et les Tigres vont continuer sans doute à rugir dans le national.
Très bien.
Autre rencontre de foot importante en National 2, c'était samedi et c'était sur la Côte d'Azur. Ailleurs, je ne te l'apprends pas, dans le Var. C'était pour le Gol FC, donc samedi 9. Match nul encore, un but partout. Mais c'est vrai que là encore, on a des regrets pour notre équipe des Monts d'Or. Elle pouvait espérer largement mieux. On a frappé plusieurs fois le poteau ou la barre pendant le match. Et finalement, on partage les points. Dans le même temps, grâce, le leader a été battu. Ce qui permet de rester dans la roue de Louan Cuiseau, avec donc une deuxième place au classement pour le Gol FC, à un point seulement de l'équipe bressane. Bon, du bien, du pas mal pour le foot.
Ouais, tu nous as annoncé du excellent. Est-ce que c'est dans le rugby qu'on va le trouver?
Bravo, bien joué. bien vu Mathieu, le CS Villefranche Rugby a corrigé mes yeux, il n'y a pas eu de derby, ça a été vite emballé cette histoire. Au complexe de l'Escale hier dimanche, si vous nous écoutez le lundi, dimanche 10 octobre, le score est sans appel, il est lourd, 50-17 pour les Canadois. Ils avaient déjà marqué 3 essais à peine après 10 minutes de jeu, donc ils ont écrabouillé la concurrence à l'Escale, à Arnas, hein, et ce derby en ensuite, ils l'ont déroulé, hein, 7 essais dont 6 transformés, une pénalité contre 2 essais pour les Majolans. Victoire bonifiée, hein, tu le sais Mathieu, en rugby, quand tu t'imposes avec une telle marge, eh bien, tu prends un point de plus. Bonne affaire pour les hommes de Manu Stival, donc, qui rejoignent Rieux en deuxième place du classement de Fédéral 2 après la quatrième journée, à 4 points d'Annecy, c'est-à-dire une victoire qu'il faudra compenser, surtout que Annecy avait battu le CSV lors de la deuxième journée. Donc il faut continuer, il faut aller de l'avant pour le CSV, ne plus se poser de questions.
Très bien. Bon, et alors qu'en est-il des sports en salle?
Il y a eu de l'excellent là encore. On y viendra dans un instant, mais hélas, l'inquiétude continue de grandir pour le handball, surtout pour l'entente beaujolaise handball. Ce sont les masculins de Villefranche qui sont en National 2. C'est vrai que c'est une équipe jeune, recomposée, qui va avoir besoin de temps pour trouver le niveau. Effectivement, malgré, encore une fois, les 9 buts de Dylan Alliel, qui a encore cartonné une fois de plus samedi soir, c'était à domicile à l'Escale contre Longvie. Et tu te souviens, on avait dit que Longvie, il faut se rappeler, est une équipe qui vient de la banlieue dijonnaise. Longvie qui était au coude à coude au classement, qui n'avait pas encore gagné non plus après les 3 premiers matchs du championnat national 2. Et on a cru longtemps que c'était la bonne pour l'entente beaujolaise. Qui a mené tout le long, mais qui hélas se fait rejoindre à 10 minutes de la fin, et puis le doute qui s'installe forcément dans les têtes. Ils ont craqué dans le money time, ils s'inclinent 21-25 les Caladois, on est de plus en plus inquiets, hélas. Mais bon, là encore, disons-nous que le temps peut peut-être améliorer les choses et que cette équipe va peut-être finir par trouver ses marques, mais elle est en progrès, on ne peut pas dire le contraire. Du côté de la Nationale 3, les autres masculins donc du Belleville, Val d'Ossau, Handball, eux étaient en déplacement à Soultz. Bon, ils ramènent un nul, 34 partout, c'est un peu dommage. Il y avait peut-être la place pour ce déplacement, mais enfin, ça va les laisser en milieu de tableau là pour l'équipe de Belleville, qui devrait elle aussi continuer à progresser très certainement dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est mitigé côté handball. Et puis alors là où par contre c'est excellent, eh bien c'est le basket, hein, parce que je t'avais prévenu que Beaujolais Basket aurait un gros défi samedi 9 octobre en recevant Charleville-Mézières, leader invaincu de la Nationale 2, équipe qui avait postulé à l'accession en wildcard, c'est-à-dire une invitation pour le championnat national 1, et qui finalement avait été recalée. Donc c'est une équipe qui est calibrée pour aller jouer au niveau supérieur. Eh bien Beaujolais Basket n'a pas fait dans la dentelle, puisqu'ils les ont littéralement balayés, des joueurs des Ardennes, en s'imposant 93 à 75. À la mi-temps, c'était hyper chaud, un point d'écart. Mais alors, au milieu du troisième quart-temps, une véritable tornade s'est abattue sur les Ardennais, sous l'impulsion de Mathieu Simon, 26 points, l'arrière-shooter de Beaujolais Basket, et du pivot Marius Valuconis, et ses 29 points. Donc, le festival offensif, couplé à une défense de fer, ont fait tomber, donc ont terrassé ce leader invaincu. Beaujolais Basket se replace dans la course vers les toutes premières places avec seulement un point de retard donc sur justement Charleville et les trois autres équipes qui avaient déjà concédé une défaite cette saison. Et puis en National 3, eh bien là, les Starars étaient un peu inquiets la semaine dernière, après un nouveau revers, c'était pas du tout prévu au programme. La Starars s'est rassurée, elle est allée chez le dernier du classement, la Lanterne Rouge, Alpha Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand, et là, il n'y a pas eu photo, 91 à 60 pour la Starars, qui se remet dans le bon sens de marche. Enfin, il faudra récupérer là, les deux défaites initiales, qui elles, n'étaient pas forcément prévu. Voilà un petit peu pour le très bon.
Très bien. Bon, c'était des bonnes nouvelles. Et côté volley, on n'en a pas parlé.
Et oui, le volleyball avec les trois équipes qui jouaient ce week-end. Le VBVB, les joueurs de Villefranche, n'ont pas été vraiment inquiétés par Montpellier-Castelnau, le VUC. Comme on les appelle. C'était dimanche 10 octobre à l'Escale, dimanche après-midi. Et pour la deuxième journée du championnat national 2, c'est une deuxième victoire en 4-7, parce qu'il y a eu un petit relâchement à la deuxième manche, mais pas de souci pour l'équipe de Jérôme Sauton, donc qui l'emporte donc ce deuxième succès. Donc ça va bien pour notre équipe en National 2. La réserve en National 3, elle par contre, a coulé en levée de rideau, battue par Le Pontet en 3-7. Bon, il faudra vite oublier ce match. Et puis alors, quant aux féminines du VBVB, c'est pas mieux, parce qu'elles aussi, elles ont coulé. Elles sont battues en 3-7 sec à Saint-Fond pour le derby de la deuxième journée. Il faudra se reprendre là pour les filles, mais bon, qui, rappelons-le, visent le maintien en National 2. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Je termine les résultats par un petit résultat de sport individuel. Ça change un peu. Est-ce qu'il y avait dimanche 10 octobre, il y avait la traditionnelle course des 9 clochers pour les runners. C'est un rendez-vous très prisé avec diverses distances, mais l'épreuve reine, c'est le 25 km où il y avait plus de 1000 coureurs engagés, et c'est le coureur de Craponne, c'est l'homme en forme, il est un des favoris de la prochaine Saint-Élion, et il sera très certainement probablement aussi au marathon du Beaujolais. Dominique Randa l'emporte en solitaire, mais de peu, parce que c'est dans le dernier kilomètre qu'il s'est débarrassé à Chazé-d'Azergues de Sébastien Baron, bien connu ici puisque c'est un des membres éminents des Beaujolais Runners, qui finit deuxième. Voilà un petit peu pour ce panorama des résultats. Tu vois, il y a eu de tout.
Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui va nous attendre dans les jours prochains?
Programme encore assez chargé le week-end prochain, même si on va faire relâche du côté du volleyball. Et puis du rink hockey aussi. Tiens, ça me fait dire que j'ai oublié un dernier résultat. Tu vois, j'ai ma tête. Le rink hockey de Glaizé, bon là, on va vite oublier. 6-1, une grosse déroute à Tourcoing dans le Nord samedi dernier. Voilà pour la parenthèse. En tout cas, pas de rink hockey à venir. En revanche, il va y avoir un week-end un peu particulier côté football, puisque c'est le 5e tour de la Coupe de France. Donc les 16 et 17 octobre. Et cela concerne encore quelques équipes rescapées, équipes locales rescapées, qui sont encore en lice. Donc ce week-end, 5e tour de Coupe de France, il y aura le CS Neuville, équipe de bord de Saône, là, contre Varèse. Alors, Varèse, pas l'équipe italienne, hein, mais une équipe régionale, bien sûr. L'AS Chavanais, elle recevra Limonest, notre équipe de National 3. Et puis, Chaponnet-Marraine en Isère sera l'hôte de Saint-Cyr-Collonges. Ça, c'est pour les équipes locales de district ou régionales. Entrée en lice ce week-end des équipes de championnats nationaux du National 1. Et puis, poursuite du programme pour les équipes de National 2 qui ont déjà franchi un tour. Alors, le Gaul FC, donc l'équipe de Chasselet, l'équipe des Monts d'Or, elle ira défier une équipe du championnat régional. Donc, elle aura les faveurs du pronostic à Cré. Où est-ce que c'est Cré, C-R-E-S-T, Guy, Mathieu, je te pose la question.
Cré, c'est dans la Drôme.
Bravo, en effet, dans les environs, dans les faubourgs de Valence. Donc l'entente Cré-Aoust recevra le Gaul FC. On attend évidemment des joueurs des Monts d'Or une nouvelle qualification. Et puis entrée en lice des Tigres du Football Club Villefranche-Beaujolais, qui, rappelons-le, National 1. Alors là, je pense que dans le petit stade de Saint-Maurice-l'Exil, je ne sais pas si tu sais où c'est, hein, ça a l'air d'être très loin comme ça quand on le dit, mais ça l'est pas tant, ça ne l'est pas tant. C'est dans le Nord-Isère. Voilà, c'est pas très très loin. Saint-Maurice-l'Exil, qui est un petit club, pardon pour le peut-être pour l'adjectif, mais ce n'est pas péjoratif. C'est une équipe qui évolue en championnat départemental et qui va recevoir les Tigres donc du Football Club Villefranche-Beaujolais, rappelons-le, deuxième du national. Je ne sais pas si Hervé Della Maggior se déplacera avec toute son armada effectivement là-bas dans l'Isère, mais tu sais, en football, il faut jamais maîtriser, il faut jamais croire qu'on maîtrise tout, et surtout, il faut jamais mépriser, hein, tu vois, sans mauvais jeu de mots, l'adversaire quel qu'il soit. Donc, attention, hein, parce que parfois, il y a d'énormes surprises en Coupe de France, hein, c'est le lot de cette compétition.
C'est vrai.
Donc, 16 ou 17 octobre, tout ça est en train de se programmer à Saint-Maurice-l'Exil, équipe donc de département. Voilà pour la Coupe de France de foot.
Très bien. Il y a d'autres.
Alors, il y aura. Oui, il y aura d'autres rendez-vous, hein, en sport ce week-end, bien sûr. Hein. On continue en rugby avec la suite du deuxième bloc pour le CS Villefranche. Dimanche 17 à 15h, déplacement à Voiron dans l'Isère, 5e journée. Match important, il faut s'imposer là-bas pour continuer à regarder en haut. Le handball, tout le monde joue. L'entente beaujolaise se déplace, court déplacement à Saint-Priest le samedi 16 à 20h, 5e journée. Pour les féminines de Saint-Julien, Denisé Glaizé. Samedi soir également, c'est à Saint-Étienne qui est leader invaincu. Là, gros challenge, hein, pour les filles qui n'ont toujours pas gagné. Et puis Beaujolais-Val-de-Saône sera à la salle Gardant pour recevoir Bron-Vénissieux Lyon Métropole. C'est à 21h samedi. Il y aura du basket avec le déplacement important pour Beaujolais Basket. Là, il faut enchaîner. Rendez-vous malheureusement après un long voyage, hein, à Holzheim. Allez, encore de la géographie.
Bon, ça, c'est un nom de village alsacien, non ?
Tout à fait ! Bravo, bravo, c'est bien cela. Au fin fond de l'Alsace. Très joli village viticole, lui aussi. C'est samedi à 20h. Il faut enchaîner pour Beaujolais Basket. Et puis la Starar, elle, en National 3, elle sera à domicile à la salle Robert Maga samedi soir. Un petit derby, en effet, avec la réception de Caluire. Voilà les rendez-vous que j'ai cochés pour le week-end de sport à venir. On est impatients, évidemment, de suivre tout ça. Et en attendant, une très bonne semaine, Mathieu.
Merci beaucoup. Et ben, on compte sur toi pour nous débriefer tous ces résultats la semaine prochaine. À très bientôt, Eddy.
Avec plaisir. Salut, Mathieu.
Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, on traîne pas tout de suite, mais la 11e.
Ensemble sur Calade.
Mais la 11e.
Et il est l'heure de la rubrique Mais la 11e avec Georges Botton. Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Eh bien ça va bien, très heureux de te retrouver. Et toi ?
c'est réciproque. Et je suis heureux également de retrouver mes amis auditrices et mes amis auditeurs à qui je dis bonjour.
Parfait. Bon, alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, bah, écoute, j'ai d'abord, pour commencer avec une petite blague, c'est une blague israélite. C'est un vieux juif qui meurt et qui rencontre Dieu le Père en arrivant au paradis. Alors, il fait le bilan provisoire de sa vie et il veut la présenter au bon Dieu. Alors, il dit, le vieux juif dit au bon Dieu, « Ah, bon Dieu, si vous vouliez, si vous saviez la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est quand mon fils m'a averti qu'il s'était converti au catholicisme. » Alors, Dieu, le Père, a dit au vieux juif, « Écoute, mon vieux, c'est pas grave. Moi aussi, ça m'est arrivé, cette histoire-là. » Alors, le vieux juif lui demande, « Et alors, Dieu, le Père, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette nouvelle ?» Alors, Dieu, le Père, lui répond au brave juif, « Eh bien, mon vieux, moi, j'ai simplement fait un Nouveau Testament. Voilà. » Une petite histoire de religion. J'espère que ça n'arrivera à personne. C'est une blague.
Très
alors,
bien,
maintenant,
oui.
On va enchaîner, pour revenir à mes coups de cœur aussi, le jazz traditionnel. Et là, je vous ai sorti un très joli morceau de Count Basie et son orchestre. Le morceau s'appelle « Roseland Shuffle ». Il date du 21 janvier 1937 à New York. Les musiciens sont Buck Layton et John Case et Carl Smith à la trompette, trois trompettistes, George Hunt et Dan Minor au trombone, Conti Roberts, pardon, saxo alto, Herschel Evans et Lester Young, saxo ténor, clarinette, Count Basie au piano, Jack Washington à la basse et Claudie Williams à la guitare. Alors donc c'est un très bon morceau. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'annonce tous les noms de tous les musiciens, mais je pense que c'est normal parce qu'il y a des musiciens qui sont connus dans ce morceau. Il y a Buck Layton, Lester Young, Count Basie et Joe Jones. Mais les autres, ils ont autant de valeur. Ouais. La meilleure preuve en est, c'est que c'est un excellent groupe que vous allez apprécier. Alors Count Basie, je vous en dis deux mots très très rapidement. Il est né en 1904, décédé en 1984, ce qui fait donc 80 ans. Il a eu, comme tous les musiciens de jazz, et en particulier tous ces grands musiciens qui ont eu une renommée internationale, il a eu une vie très itinérante. C'était un remarquable musicien et également un remarquable chef d'orchestre. Il a joué, par exemple, petits détails, ce sont des détails bien sûr, il a joué en 1954 à la Salle Pleyel à Paris. Et alors, il y avait, je vais commencer à vous en parler d'un truc qui est très intéressant dans le jazz, c'est l'influence des gangsters, aussi bien de Chicago que New York ou les grandes villes, des gens comme Al Capone, qui est bien connu. Les gangsters ont une énorme influence sur la divulgation, la propagation du jazz. Et alors, un tout petit exemple concernant Count Basie. En 1930, Count Basie n'a pas pu jouer dans la 53e rue à New York, car il n'avait pas encore l'appui des gangsters.
Ah ouais.
C'est très important. Et puis, autre détail sur la vie de Count Basie, il adorait, paraît-il, de jouer de l'orgue dans la fosse d'un orchestre de cinéma à Kansas City. Kansas City, c'était une ville extrêmement dynamique dans le jazz, et je vous rappelle qu'autrefois, les films étaient muets, et donc ils étaient accompagnés soit d'un pianiste, soit d'un petit orchestre. Voici donc trêve de discussion, trêve de bavardage, Roseland Shuffle, par Count Basie et son orchestre. Et moi, amis auditrices, amis auditeurs, je vous dis à demain pour la 101e et à lundi prochain pour la 11e.
Parfait. Merci beaucoup, Georges. À très bientôt.
À bientôt, Mathieu. Au revoir.